Radio Grenouille,
Radio Grenouille,
Radio Grenouille.
10 minutes,
10 minutes,
10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Jeanne Caratala à l'occasion du colloque organisé à Marseille, à la Friche Belle de Mai exactement, la ville à l'épreuve de la démocratie, 3 jours d'échanges, de débats et de retours d'expérience, 25 et 27 octobre. Jeanne Caratala est anthropologue, enfin en tout cas mène des études d'anthropologie urbaine. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie urbaine?
C'est l'étude de la ville à partir d'un point de départ qui est que la ville ne peut pas s'appréhender comme une totalité, mais à partir d'un montage de segments de la vie urbaine. Et c'est essayer d'étudier la ville à partir de ceux qui la font, donc des pratiques et des discours de ceux qui sont et pratiquent la ville.
Alors, la ville à l'épreuve de la démocratie, c'est donc ce colloque. Nous avons déjà reçu certains intervenants de ce colloque, mais vous n'êtes pas vraiment intervenante dans ce colloque.
Non.
Par contre, vous avez participé en tant que, disons, auditrice, aussi parce que vous êtes étudiante et que vous intéressez à ces questions, j'imagine. Quel regard vous avez porté sur la première matinée, là, qui avait pour titre « Fabriquer la ville ». Comment elle se fabrique, alors, au regard de ce qui s'est dit?
Eh bien, on ne le sait toujours pas. Après 2 heures d'écoute des 4 participants, réflexion à partir de cette première partie, on ne sait pas trop vraiment où on a abouti, si ce n'est que ça faisait plutôt présentation. Et après, moi je mettrais plutôt l'accent sur le fait que c'est assez choquant d'être dans le thème de la démocratie, et ils ont beaucoup parlé de démocratie participative. Et en fait, on a eu 2 heures de présentation assez académique et institutionnelle, sans place aucunement au débat et à la discussion qui font partie de la démocratie participative.
On était surtout donc du côté des urbanistes, en fait.
Purement urbanistes et architectes, ce qui est donc aussi choquant, dans la mesure où pour parler de la ville et de la ville dans la dimension démocratique, de n'inviter que des architectes et urbanistes, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on fait de la ville un objet technique. Et qu'on oublie que la ville, c'est d'abord un problème économique, social et politique, que c'est aussi la réunion très concrète d'habitants, travailleurs et résidents qui y vivent. Donc ça, c'était assez problématique. Et après, il faut aussi replacer qu'était absente complètement la dimension politique dans la discussion. Puisque déjà, que des urbanistes architectes pourront parler. L'urbaniste et l'architecte, comme dirait Jean-Pierre Garnier, c'est quand même le vassal du pouvoir. Et ça, on n'en parle jamais. Après, y avait d'autres problèmes qui se sont posés, notamment le fait que les projets urbains ont été présentés comme des cas locaux, comme des cas particuliers, alors qu'ils ont tous en commun une même dimension politique et une dimension, pour pas dire idéologique, parce que ça fait peur, on va parler de cadre syntaxique, avec des mêmes hypothèses de départ, qui est qu'on est dans un monde de concurrence exacerbée, et donc objectif, faire de la ville un produit marchand et concurrent, et donc une même stratégie.
Mais cette hypothèse de départ, le fait qu'on soit dans un monde de concurrence exacerbée, c'est une réalité.
C'est une réalité. C'est une réalité qui est fondée sur des hypothèses et sur des principes. À partir de là, oui, elle existe. Mais si on décide de ne plus croire dans ces principes-là, on peut la défaire.
Alors votre doctorat a pour titre Euromède. Enfin, pour titre, en tout cas, il s'agit de penser Euromède comme un dispositif politique. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, pour prendre le dispositif comme ensemble de discours et de pratiques, avec une fonction de pouvoir. Et après, politique, moi je l'entends par politique dans... Je le prends au sens très large, de tout ce qui a trait à la gestion et à la distribution des ressources et qui concerne les hommes, les humains. Donc à partir de là, dispositif politique est appuyé sur le fait que c'est un ensemble de discours et de pratiques qui ont pour objet une certaine conduite des pratiques humaines. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est plus toute la base politique des rénovations urbaines, c'est une idéologie libérale et néolibérale qui fonde toute la logique des projets urbains. Et c'est ça que j'essaye de mettre en avant parce qu'on oublie vite ça et on a toujours l'impression que c'est juste un fait naturel de l'histoire. La ville existe, la ville est un objet urbain, ce qui ne veut pas dire grand-chose, on n'a pas travaillé là-dessus, mais les urbanistes en parlent comme ça, et ce sont des murs et des gens à l'intérieur qu'il s'agit de mener, et ce qu'il faut faire ressortir, c'est que non, c'est qu'il y a des idées qui fondent la ville, et même si ce sont que des idées et des mots, elles ont des implications très concrètes, comme là le projet Euroméditerranée.
Alors si, bien sûr, il y a toujours des idées derrière les projets, il n'en reste pas moins qu'aussi, qu'à un moment donné, on rencontre des corps, la population par exemple.
Ah ben, demandez aux urbanistes, aux architectes, ils n'en parlent jamais. François Leclerc, qui est l'urbaniste qui a gagné le concours pour Euroméditerranée 2, dans toute son intervention qui était il y a quelques mois, le mot homme ou habitant intervient 3 fois en 1 heure. Au point que je lui ai posé la question si finalement il ne travaillait que sur des murs, et j'ai eu la réponse de non, l'architecture travaille sur du vide, donc on n'a pas répondu à la question. On ne prend jamais en compte ça, ce qui est parce que, encore une fois, la ville est conçue comme un produit marchand qu'il s'agit de positionner sur un espace de concurrence, et ça suffit de lire tous les documents internes de Euroméditerranée et même la documentation publique, mais c'est pareil pour Barcelone, Nantes, Bruxelles et même les États-Unis. Il faut faire de la ville un objet attractif. Pour qui ? Et la question se pose à ce moment-là, là l'humain intervient, et là c'est pour une certaine classe sociale et économique. Mais sinon, qui existe dans la ville et comment on part de ces gens-là pour construire la ville, on n'en parle jamais.
Là, vous avez fait un signe vers la gentrification.
Ouais, j'aime pas trop ce mot, ça veut pas dire grand-chose, il est un peu trop utilisé, et surtout, selon moi, il appuie que sur les effets. Donc la gentrification comme... ça décrit. Voilà, il y a un changement du quartier, donc changement de population. Mais encore une fois, on questionne pas d'où vient ce changement-là et quelles sont les volontés politiques derrière.
En tout cas, c'est le titre d'une conférence, d'une table ronde qui a lieu à partir de 14h le samedi 26 octobre et qui s'intitule Débat citoyen, lien entre culture, gentrification et les multiples formes de ségrégation urbaine. On est en plein dans votre sujet.
Oui, carrément. La culture est un élément très très important parce que c'est devenu vraiment outil de marketing. Et les cas sont nombreux pour le prouver, c'est pas à moi de le faire. Je peux envoyer à certaines références comme Robenco à Bruxelles, il y a un DVD qui a été fait sur ça dans Ville et Résistance Sociale d'Agone. La culture est devenue outil de marketing et surtout une culture que je mettrai avec un grand C, puisque ce n'est pas du tout la culture, déjà la culture ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est la culture, pour parler de Marseille, du MUCEM, du MUCEM c'est le plus évident, et si je peux me permettre de parler de la Friche, puisque la Friche dans tout son côté alternatif est loin de remplir ce rôle vraiment d'alternativité, et je donnerai juste un exemple. Encore une fois, aujourd'hui les gens étaient appelés à manger dans la Friche et à ne pas sortir dans le quartier que la Friche est censée réhabiliter quelque part.
Mais la culture a toujours été d'une certaine manière l'endroit de la valeur ajoutée, quoi, aussi.
Quelle valeur ajoutée ?
Bah, c'est-à-dire cette valeur de l'identité, du plus qu'on va apporter par rapport au contenu même.
Non, pas forcément. Avant, c'était pas comme ça. Si on remonte à l'époque du Moyen-Âge, ne serait-ce que par exemple le théâtre, n'existait pas la scène avec ce quatrième mur qui est assez significatif. L'art.
Quand je dis toujours, ça fait quand même un bout de temps.
Ouais, mais ça fait un bout de temps qu'on est dans une même idéologie et dans un même cadre logique. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'on croit tous au fait que le libéralisme est la fin de l'histoire.
Parce que par exemple, dans votre sujet de recherche, vous vous intéressez à la question de la construction d'une identité. Mm-hmm. Mais il n'y a pas aujourd'hui de ville, il n'y a pas de projet qui ne puisse pas ne pas penser la question de l'identité.
Je pense que c'est une question assez contemporaine. L'identité, c'est un débat très complexe parce qu'en fait, ça n'existe pas vraiment et c'est juste une fonction. Mais l'identité est vraiment un problème très très contemporain aujourd'hui. C'est assez moderne, je dirais peut-être depuis les années 80, où il y a cette recherche de créer une identité et qui est là aujourd'hui un outil vraiment d'une idéologie libérale dans laquelle à tous être commun, il faut pouvoir se démarquer. Et se démarquer par quoi ? Par une identité. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est très importante aujourd'hui parce qu'il y a un combat là-dessus qui est en plus complètement faussé, comme aujourd'hui Marseille, entre l'identité de la Méditerranée et de la Porte de l'Orient et des épices, alors qu'en fait, si on doit croire que cette identité-là existe, pourquoi pas, on est en train de la détruire par les faits, dans les pratiques, par les opérations des rénovations urbaines d'aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
Prenons Marseille, son identité c'est le port, qu'est-ce qu'on en fait ? Les terrasses du port, c'est un lieu de consommation et d'un certain niveau de consommation. Donc où passe cette histoire du port maritime ? Le J4, les conversations c'est entre un casino et une boîte, une discothèque, encore une fois, où est passé le port qu'on voudrait remettre en valeur.
À l'endroit du MUCEM, il y a évidemment l'architecture de Ricciotti, mais il y a tout le fort qui a été quand même réouvert et qui n'avait pas été ouvert en Marseille.
Il était ouvert avant.
Ça faisait très longtemps qu'il était fermé. Et il est en accès gratuit.
Waouh.
Non mais je veux dire, c'est quand même ça, ce n'est pas un geste où la population peut à un moment donné retrouver un espace qui avait été, comment dirais-je, pendant un temps fermé.
Ben moi je pense pas, mais après ouvrons le débat. Quand on traîne dans les 10 quartiers populaires de Marseille, les gens n'ont rien à faire du fort et du Mucem et n'y vont pas. Donc la question se pose de si on veut faire un lieu de culture, si on veut ouvrir faire de la culture, pour qui, pourquoi, quel objectif, et encore une fois, aller voir les gens pour savoir ce dont ils ont besoin, quoi. Parce qu'après, faire des musées à Marseille, je sais pas, Paris existe déjà pour ça, on a autre chose à travailler aujourd'hui, quoi.
J'imagine que dans vos travaux d'études, vous allez justement à la rencontre de la population.
Oui.
Merci Jeanne Caratala d'être venue sur les ondes de Radio Grenouille.
Merci à vous.
Dans le cadre de ces 10 minutes avec, et c'était donc un moment autour de la ville à l'épreuve de la démocratie, deux jours, 25 au 27 octobre, de colloque à la friche Belle de Mai, organisée par l'Université Populaire Pensons le Matin.
Radio Grenouille, Radio Grenouille. 10 minutes. La rédaction vous invite. 10 minutes avec...